Fabienne Saintès.
Et bonsoir Charline, on est chez vous, savez-vous
oui,
Charline
à Bruxelles.
Exactement, un tout petit peu chez nous quand même aussi si vous le permettez, puisque nous sommes dans le Parlement européen de Bruxelles pour un 18-20 spécial à deux semaines de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. On vous explique dans un tout petit instant ce que ça veut dire. Pour l'heure, place au journal à Paris et tout ce qu'il faut savoir de cette journée du mercredi 8 décembre. Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. L'essentiel commence ce soir avec une passation de pouvoir. Passation historique entre Angela Merkel et le désormais nouveau chancelier allemand Olaf Scholz. Une page qui se tourne, la fin du mandat d'Angela Merkel et l'arrivée à la tête du gouvernement du patron des sociodémocrates. Récit de cette journée avec la rédaction internationale. Un ministre de l'équipe Castex qui quitte ses fonctions, Alain Griset, a démissionné après sa condamnation aujourd'hui dans l'affaire de sa déclaration de patrimoine incomplète. Éclairage du service politique à suivre. À suivre aussi Arnaud Montebourg, prêt à s'effacer devant une candidature commune de la gauche. Il doit le dire dans une vidéo diffusée dans la soirée. Information France Inter. Le professeur Delfraissy qui prend la défense du vaccin Moderna. Une chanteuse de rock empêchée de jouer dans une église par des catholiques intégristes à Nantes et à Paris. Et pour finir, une surprise cachée au cœur d'un tableau de Rembrandt. On vous dit tout en fin de journal.
Et sinon, Sébastien, donc, ici, dans le très beau studio du Parlement de Bruxelles, en plein centre, vous pouvez pas nous rater si vous passez ensemble. Nous allons, dans cette première heure spéciale, tâcher de comprendre ce que ça veut dire pour la France de présider le Conseil de l'Union pour les 6 prochains mois. On verra les gros dossiers que la France veut essayer de porter, comment se gère une élection présidentielle en plein milieu. Nous en discuterons avec Charles Michel, le président du Conseil européen, avec Stéphane Séjourné, le président du groupe Renew au Parlement, avec Karim Adeli aussi pour les Verts. Et puis, à partir de 19h20, c'est à vous de jouer avec vos questions. Et là, nous serons sur le dossier que l'Europe et la France aussi un mal considérable à dénouer, celui des migrants, le pacte migratoire au point mort, la gestion de leurs arrivées. Le numéro ne change pas, c'est toujours le 01 45 24 7000.
France Inter. L'ère Merkel a définitivement pris fin. Aujourd'hui, la désormais ex-chancelière allemande a quitté la chancellerie pour de bon. Cet après-midi, après 16 années sans interruption au pouvoir, à sa place, la nouvelle figure de l'Allemagne, le social-démocrate Olaf Scholz, à la tête de la coalition SPD Verts et Libéraux. Élection au Parlement, prestation de serment devant le président allemand, passation de pouvoir entre chanceliers. On va faire le récit de cette journée très protocolaire aujourd'hui, mais mémorable outre-Rhin. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
C'est un homme austère qui succède à une femme tout aussi austère.
Oui, la politique de l'Allemagne va peut-être changer ces prochaines années, mais dans le style, dans la forme, il faut s'attendre à de la continuité. Rien de spectaculaire, pas un bon mot, pas une image forte à se mettre sous la dent. Olaf Scholz s'est en quelque sorte fondu dans le protocole, d'abord ce matin au Bundestag.
Herr Olaf Scholz zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
Le nouveau chancelier est formellement élu par les députés, mais lorsqu'il doit répondre à la question de la présidente, acceptez-vous le résultat du vote? Pas de chance, son micro ne marche pas, il faudra lire sur ses lèvres pour deviner sa réponse. Ensuite, direction la chancellerie, passation de pouvoir minimale dans une salle clairsemée en raison des restrictions Covid, quelques mots bienveillants d'Angela Merkel au moment de lui laisser les clés.
Ich weiß, dass Sie
Je sais que vous arrivez ici avec énormément de motivation. Cette maison est désormais à vous. Et je vous demande de travailler pour le bien de notre pays.
Il faut dire que ces deux-là se connaissent par cœur. Rappelons-le, Olaf Scholz était pendant ces 4 dernières années vice-chancelier et ministre des Finances du dernier gouvernement Merkel.
Nous savons l'un comme l'autre que ce passage de témoin a lieu en plein milieu d'une crise sanitaire majeure qui n'est pas terminée. Cela appelle de la continuité. Le fait que nous ayons partagé ensemble tellement d'expériences me sera très utile. Je tiens à vous remercier pour votre travail.
Olaf Scholz promet un nouveau départ pour l'Allemagne, mais il a tout d'un parfait héritier de la chancelière. On guettera maintenant ses débuts à l'international. Premier déplacement vendredi, ce sera à Paris pour un tête-à-tête avec Emmanuel Macron.
Cyril Sauvageau de la rédaction internationale, merci. L'arrivée d'Olaf Scholz à la chancellerie saluée dans le monde entier. La Chine qui se dit prête à élever à un nouveau niveau ses relations avec Berlin, Moscou qui veut une relation constructive avec l'Allemagne. Et enfin Emmanuel Macron qui promet d'écrire la suite ensemble. Emmanuel Macron qui de son côté poursuit sa visite de deux jours dans le Cher et l'Allier avec un déplacement particulièrement symbolique. Aujourd'hui, dans les rues de Vichy, le chef de l'État doit rendre hommage aux 80 parlementaires qui avaient refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ce matin, sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne, Emmanuel Macron a mis en garde contre toute manipulation, je cite, de l'histoire, dans une allusion à peine voilée. Éric Zemmour, qui défend lui la thèse d'un Pétain ayant sauvé des Juifs pendant la guerre, à rebours de tous les historiens. Il avait commencé taxi avant de devenir ministre. Alain Griset a donc démissionné de son poste de ministre délégué chargé des PME, condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité avec sursis également pour sa déclaration de patrimoine incomplète. Bonsoir Maxence Lambrec.
Bonsoir.
Le ministre a fait appel. Le processus judiciaire n'est donc pas terminé et pourtant il a donné sa démission.
Oui, fin du feuilleton, même si elle n'est pas définitive, cela reste une condamnation forte, marquante. Jamais un ministre en exercice n'avait été ainsi jugé par un tribunal. Depuis le début de cette affaire, Emmanuel Macron soutenait Alain Griset, le félicitait pour sa gestion de la crise sanitaire au chevet des TPE, PME, artisans. Et d'ailleurs, ce soir, Jean Castex salue l'esprit de responsabilité d'Alain Griset et je cite son travail remarquable. C'était un technicien plus qu'un ministre, estime un conseiller de l'exécutif, et c'est pour ça qu'il a pu rester à Bercy tout au long de la procédure à l'abri des caméras. C'est vrai, les Français ne connaissaient quasiment ni son nom ni son visage. Cette affaire n'a jamais entravé son action, assure Matignon, et l'affaire en question était suffisamment complexe pour qu'elle échappe au grand public. Une simple photo d'un dîner aux chandelles avec des homards, c'est beaucoup plus fort, rappelle un communicant, référence à François de Rugy. Jean-Paul Delevoye lui était sorti dès l'ouverture d'une enquête préliminaire pour des activités non déclarées à la Haute Autorité, mais il était alors en charge de la réforme des retraites. Ce soir, l'exécutif s'en sort bien, quasiment aucune réaction politique à cette condamnation inédite. On attend aussi le nom de son successeur.
Maxence Lambrec du service politique d'Inter. Au chapitre politique encore, ça bouge à gauche avec cette vidéo du candidat Arnaud Montebourg qui doit être diffusée dans les prochaines minutes sur les réseaux sociaux et dans laquelle il se dit donc prêt à s'effacer au profit d'une candidature commune de la gauche. Par ailleurs, Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidentielle, elle sera l'invitée du 20h de TF1 ce soir. Information développée dans le journal de 19h d'Hélène Philly. Le ressortissant saoudien arrêté hier à Roissy, Charles de Gaulle, a été ce soir remis en liberté après vérification de son identité. Il n'est pas en lien avec l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il n'était pas l'objet d'un mandat d'arrêt international, comme le laissait penser son passeport. À l'origine de cette méprise, une quasi-homonymie parfaite. Les services de sécurité saoudiens affirment que le véritable Khaled al-Otaïbi est emprisonné au sein du royaume saoudien. Ils envisageaient de poignarder des passants dans la rue au moment des fêtes de Noël. Deux hommes de 23 ans ont été interpellés à la fin du mois dernier par la DGSI, puis écroués pour un projet d'attaque terroriste au couteau, sérieux et imminent d'ici la fin de l'année. L'un des deux conteste les faits, l'autre a avoué en garde à vue. Il y aura assez de doses de rappel pour tout le monde. Déclaration rassurante ce matin du professeur Delfraissy devant les sénateurs, le président du conseil scientifique auditionné sur la 5e vague par les parlementaires. Assez de doses à la condition toutefois qu'on utilise les deux vaccins ARN messager. Écoutez le professeur Delfraissy.
Il y aura suffisamment de doses de vaccins si on utilise Pfizer et Moderna. Et le message qu'il faut passer à nos citoyens, c'est qu'ils n'ont pas de crainte à avoir vis-à-vis de Moderna. Que ce vaccin marche aussi bien, voire peut-être légèrement mieux que le Pfizer en dose de rappel, qu'on peut croiser d'ailleurs, hein, les vaccins entre eux. Soit on est inférieur à 30 ans et il faut avoir un Pfizer, parce qu'il y a ce petit risque, entre guillemets, de myocardite qui existe. Soit on a plus de 30 ans. Et si on a plus de 30 ans, si on vous propose Pfizer, c'est bien. Si on vous propose Moderna, c'est très bien aussi. À titre personnel, j'ai reçu du Moderna au mois de septembre. Il n'y a pas du tout d'enjeu et il faut qu'on puisse utiliser Pfizer et Moderna parce que si on n'utilise que Pfizer, on n'aura pas suffisamment de doses.
Le professeur Delfraissy ce matin devant les sénateurs. À Nantes, des intégristes catholiques empêchent un concert jugé sataniste. Hier soir, la chanteuse suédoise de rock expérimental Anna von Hauswolf devait se produire à l'église Notre-Dame de Bonport. Concert annulé en raison du blocage des entrées par un groupe de manifestants déterminés. Le récit de Mathieu Culeron.
La scène est filmée sur les réseaux sociaux et se déroule hier soir devant l'église de Nantes. Des manifestants catholiques exigent l'annulation du concert à Notre-Dame de Bonport de la chanteuse suédoise Anna von Oswolf. Dans l'une de ses chansons, elle dit de façon métaphorique « faire l'amour avec le diable ». Les manifestants vont alors parvenir à faire annuler la prestation. Une situation intolérable selon Bessem Assé, le premier adjoint à la mairie de Nantes, joint au téléphone par Leila Mechaouri de France Bleu Loire-Océan.
C'est vraiment regrettable ce qui est arrivé et on condamne vraiment ces actes de censure qui sont, de notre point de vue, indignes et pour tout dire intolérables dans une république comme la nôtre. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important et que des groupuscules comme celui-ci viennent empêcher ce type de concert, pour nous c'est intolérable.
Une situation qui aura des conséquences comme l'analyse Émeric Cesseau, adjoint à la culture de la mairie de Nantes, contacté par France Bleu Loire-Océan.
Mais il faudra désormais tirer tous les enseignements de la soirée hier. Comme vous le savez, la ville n'est pas responsable de l'ordre public. C'est une responsabilité qui revient à la préfecture qui, sur cet événement, était parfaitement informée de la tension qui montait progressivement ces dernières 48 heures.
Après l'événement de Nantes, l'église Saint-Eustache à Paris a fait savoir qu'elle annulerait également le concert de Anna von Oswolf prévu ce jeudi.
Reportage de Mathieu Culeron, récit de Mathieu Culeron. C'est une agression inédite depuis la crise migratoire de 2015. Un homme extérieur à un camp de migrants près du parc de Bercy à Paris est venu armé ce matin d'un sabre et a blessé deux migrants dont l'un est dans un état grave. Il a été arrêté et entendu par la police. Et si faire un bac pro n'était plus dévalorisé, l'éducation nationale entend redorer le blason des CAP et autres bacs pro, trop souvent choisis par défaut par les élèves. Première semaine des lycées professionnels jusqu'à samedi. Illustration à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Une cinquantaine d'élèves de collège invités ce matin à visiter un lycée pro pour aller au-delà des idées reçues. Rémi Brancato.
À leur arrivée, les collégiens sont un peu intimidés.
Bienvenue au lycée Anatole France.
Mais très vite, par petits groupes, ils participent aux ateliers comme Yacine en quatrième avec Youssef en formation d'électricien.
On lui a montré comment changer une prise.
Pour commencer à couper le courant, il faut mettre les gants, on dévisse et on retire les fils.
Ça change de ce que tu fais tous les jours au collège ?
C'est plus intéressant, ça nous montre un vrai métier.
Électricité, donc restauration. Ici, la formation est très concrète.
La logique ici, c'est de vraiment les mettre en pratique le plus tôt possible, pour voir qu'on peut apprendre différemment que dans une salle de classe.
Michel Chauvet dirige le bac pro hygiène, propreté et stérilisation. Sur son plateau technique, on apprend à nettoyer, stériliser le matériel de chirurgie. 12 élèves par promotion et les hôpitaux se les arrachent.
Je reçois à peu près une centaine d'offres d'emploi par an. Un élève qui rentre en seconde, je peux vraiment lui garantir qu'en sortie de formation, il aura un emploi.
C'est ce qui a convaincu Renette en seconde.
Avoir un boulot directement à la sortie du bac, c'est bien.
Car pour la rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, il faut changer le regard sur la voie professionnelle.
C'est une voie de réussite. Très souvent, c'est vrai, pas assez choisie par les élèves. On a vu aussi des jeunes qui sont arrivés ici parce que leurs enseignants leur ont conseillé, qui ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire et qui s'y épanouissent.
D'autant que le lycée pro n'est pas une fin en soi. Ici, 4 bacheliers sur 10 font ensuite des études supérieures.
Rémi Brancato, quand un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art dévoile ses secrets. Depuis 2 ans, des experts néerlandais travaillent sur la plus célèbre des toiles de Rembrandt, la Ronde de nuit. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir Sébastien.
Et ces experts viennent de faire une découverte inattendue. Isabelle, un croquis caché sous la peinture.
Et ce croquis, en effet, c'est la genèse de l'une des toiles les plus iconiques de Rembrandt. Ce qui est troublant, c'est de voir ce génie poser les premiers traits de ce chef-d'œuvre et de voir qu'il hésite, corrige, efface. Et c'est la preuve même, bien sûr, si on s'en doutait, que Rembrandt ne s'est pas lancé dans cette toile monumentale sans en avoir fait un croquis. Un croquis qui montre notamment que l'artiste avait prévu de peindre des plumes sur le casque d'un milicien, des plumes donc visibles sur le croquis et qui ont disparu de la toile. Ensuite, Rembrandt a supprimé une épée qui était sur le croquis et qui a disparu entre les deux personnages principaux.
Découverte qui a lieu grâce à la restauration, Isabelle, de cette ronde de nuit assez abîmée. Hein.
Oui, parce qu'en plus des outrages du temps très importants, et malgré ses officiers et sa milice, la ronde de nuit a connu plusieurs attentats, imaginez, découpés en 1715 pour pouvoir rentrer à l'hôtel de ville d'Amsterdam, 12 coups de couteau en 1960, par un dingue et aspergé d'acide sulfurique en 90 par un autre dingue. Mais 380 ans plus tard, son clair-obscur et certains personnages gardent encore tout leur mystère.
Isabelle Pasquier du service culture d'Inter.